Bonsoir. Je vous présente Danilo Martuccelli. Danilo Martuccelli qui est ici pour nous parler de son dernier livre qui s'intitule Les sociétés et l'impossible, les limites imaginaires de la réalité, qui aurait pu s'intituler, me semble-t-il, Critique de la réalité. Ce livre fait suite, disons, à une œuvre déjà considérable de Danilo Martuccelli. Je citerai simplement son avant-dernier livre, La société singulariste, sur notre société contemporaine et la singularité individuelle, qui s'appuyait aussi sur le livre précédent, Forgé par l'épreuve, qui est paru il y a 8 ans, 6, 7 ou 8 ans. Mais ici, Danilo revient, disons, à une réflexion plus générale sur les régimes de réalité, ce qu'il appelle les régimes de réalité et la relation entre l'action et la réalité et les limites qu'impose la réalité ou qu'imposerait la réalité à l'action humaine et à la façon dont on, au cours de l'histoire, disons, différents types de représentations ont été construites de la réalité et de l'action. Alors, je trouve que le livre m'a fait penser à la lecture, à celui de Foucault sur les mots et les choses, avec cette succession des épistémés. Ici, c'est des régimes de réalité. Donc, je vous propose de l'écouter, puis on discutera du contenu à la suite, disons, de sa présentation.
Merci beaucoup, Didier. Merci d'être venu écouter cette présentation. J'ai essayé de présenter de manière pas trop longue un livre qui a un raisonnement qui est pas difficile mais complexe et qui a à un certain moment certaines thèses contre-intuitives et c'est toute la difficulté du livre, c'est-à-dire de prendre certaines distances avec des évidences qui désormais factuellement s'imposent à nous. J'essaierai d'être vraiment le plus clair possible dans la présentation. À l'origine de ce livre, une sorte d'étonnement de pourquoi et comment l'économie a pris la place, toute la place, à l'heure de définir les possibles et l'impossible dans les sociétés modernes. Et pour essayer de donner une explication à ces phénomènes collectifs, il m'a semblé qu'il fallait faire un long retour en arrière, d'abord en interrogeant la manière dont une société, et pas les individus, trace la limite de ce qui est possible ou non pour une collectivité, et ensuite replacer cette question dans une succession historique qui permettrait de mieux comprendre comment l'économie essaie d'exercer cette fonction, j'essaierai de m'expliquer dans un moment, imaginaire des limites de la réalité. À la racine de cette enquête et de sa succession historique, une sorte d'évidence, d'énigme, je ne sais pas comment l'appeler, que à la racine du rapport que les individus entretiennent avec une société, il y a l'idée d'une sorte de crainte que dans cet étage qui constitue la société par rapport aux échanges interindividuels, la grande question n'est pas tellement de savoir ce que nous pouvons collectivement faire. La question qui taraude le plus les sociétés, c'est comment pouvons-nous arriver à tracer un impossible qui limite durablement les désirs d'illimitation des individus. Et de ce point de vue, ce livre n'est fait que faire une sorte parce que Didier vient de faire référence à l'œuvre de Foucault, une sorte d'archéologie, si vous voulez, des manières dont ces nécessités de maîtriser les désirs d'illimité humaine a pris des formes historiques. Pour comprendre ces formes historiques, il faut faire deux petites hypothèses qui sont posées au tout début du livre. Le premier point, c'est que dans le rapport entre l'action et la réalité, il y a à la fois l'évidence pour nous tous des contraintes. Nous ne pouvons pas ne pas agir sans penser que le monde s'oppose à la résistance, sinon on est dans le rêve ou la fiction. Et en même temps, nous ne faisons que rarement, sinon jamais, l'expérience directe des limites factuelles du monde à notre action. Et ce qui est complexe, je rendais dans un moment, au niveau de l'action individuelle, l'est encore davantage au niveau d'une société. Il y a un livre qui probablement, d'ailleurs, c'est dans la couverture du livre qui renvoie à cela. C'est bien Les Miens, Don Quichotte. Ce livre qui est écrit par Cervantes au tout début du XVIIe siècle, qu'on a tous à peu près quelques représentations en tête, et l'image surtout célèbre du début du deuxième tome de Quichotte, deuxième partie des aventures, dans laquelle Quichotte va prendre des moulins à vent pour des géants imaginaires, il va, c'est entre guillemets, cogner avec la réalité des moulins. Et longtemps on a cru que le message du roman de Cervantes était bel et bien cette frontière claire et nette entre ce qui est de l'ordre du réel et ce qui est de l'ordre de l'imaginaire. Ce qui est très intéressant dans Quichotte, qui renvoie aux problématiques centrales qui abordent cet ouvrage, c'est que lorsqu'on fait, comme Nabokov, un romancier et critique littéraire russe qui écrit en anglais, l'a fait, une analyse très serrée de l'ouvrage, on s'aperçoit que c'est nullement le message du Quichotte. Si on suit l'interprétation drôle d'ailleurs de Nabokov, le Quichotte va vivre 40 aventures. Et dans ces 40 aventures, Nabokov fait une espèce de match de football avec des points 1, 2, 3, 4, 5 sur 7, etc. Le Quichotte va gagner, entre guillemets, une vingtaine de fois, et le Quichotte va perdre une vingtaine de fois. C'est-à-dire que, quelles qu'ils soient les représentations que quelqu'un peut en avoir, les résultats, les démentis que le monde va faire de nos actions est extrêmement complexe. Il ne s'agit jamais de dire pour Cervantes que les contraintes de la réalité n'existent pas, mais d'attirer l'attention sur les caractères très élastiques, complexes et pluriels des démentis que le monde oppose à nos actions. Et ce qui est déjà complexe pour les actions individuelles, le devient infiniment davantage pour les sociétés. Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui devient impossible dans une société ne se joue pas forcément au niveau de la contrainte, mais se joue un étage supplémentaire qui est véritablement la volonté de construire une chape imaginaire, traçant à tout jamais quelque chose qui resterait de l'ordre de l'impossible. Eh bien, ce livre essaye d'explorer les manières dont historiquement les sociétés se sont dotées à elles-mêmes des représentations sous forme d'une frontière entre les choses qu'elles pouvaient se permettre ou qu'elles pouvaient faire surtout, et les choses qui étaient de l'ordre de l'impossibilité. Et donc ce livre retrace, avec un récit historique, les différentes manières dont les sociétés ont tracé l'impossible. Et chaque fois, la thèse est la même, il y a un domaine social qui va avoir un rôle hégémonique, ça veut dire plus important que d'autres domaines, alors de définir pour une société ce qui est possible ou ce qui est impossible. C'est une étude des fonctions sociales de la réalité. Comment une société énonce à elle-même les choses qu'elle pense, elle peut réaliser, et les choses qu'elle pense sont de l'ordre d'une impossibilité. Sans beaucoup d'imagination dans ce récit historique, parce que je crois qu'il y aurait un certain consensus entre la plupart des interprètes, on peut penser que cette histoire se caractérise par une succession, j'insiste, des modèles plus ou moins dominants dans une période historique, marquée par une profonde inflexion au XVIIe siècle. D'abord, il y a un régime religieux de réalité, ensuite un régime politique qui s'échevauche à bien des égards, mais avec progressivement les primats du politique sur le religieux. Ensuite, il y a, mais c'est une histoire que tout le monde connaît à peu près dans ses grandes lignes, la rupture de la science moderne, et les deux régimes de réalité qui composent le monde contemporain, l'économie et probablement, je reviendrai dans un moment, l'écologie, c'est-à-dire l'appel à la nature comme nouvelle frontière de la réalité. En termes métaphoriques, les sociétés ont accordé les tracés de l'impossible autour du dieu, du roi, de l'argent et de la nature. Et c'est cet historique de ces successions de modèles que j'essaierai de vous présenter avec des grandes lignes. Les premiers régimes de réalité, je pense qu'on a tous une certaine représentation, même très vague, puisque ça fait partie du fond partagé des représentations collectives de notre société. L'idée qu'il y a, dans des périodes très anciennes, une exposition très grande des individus, appelons-les de cette manière, à des phénomènes naturels. Et qu'une des premières questions qui s'en pose, c'est de pouvoir donner une interprétation des phénomènes naturels dont on n'a aucune maîtrise technique. Et dans ces processus d'explication, ça ne réduit nullement la religion à cette seule réalité, mais il est évident que la peur des phénomènes naturels et la nécessité de donner une interprétation à ces phénomènes se trouve à la base d'une des interprétations aujourd'hui majoritaires, même de l'anthropologie, dans toutes ses variantes, voire même les historiens, de la nécessité de construire une explication par des entités invisibles. L'idée que derrière des phénomènes naturels, il y a la volonté des dieux, dirons certaines, prenons un mot plus neutre, les entités invisibles. Et que le monde, tel qu'il est éprouvé par ces premiers individus, est divisé entre un ordre profane, ici-bas, et le monde sacré, là-haut. Voire même, dans des conceptions monistes et immanentistes, entre ce qui est de l'ordre des interdits que nous devons appliquer, dans l'ordre profane, et les sacrés qui dictent la raison de ces interdits. C'est une représentation millénaire, qui va prendre des formes très différentes selon qu'on soit dans les monismes ou dans les dualismes, selon qu'on soit dans un dieu qui va devenir de plus en plus transcendant, qui va prendre des formes très différentes selon les différentes manifestations de la magie, la sorcellerie, les miracles et j'en passe, mais c'est une représentation qui va être dominante pendant une très longue période. Ce qui trace dans cet univers de représentation, dans ce régime religieux de réalité, l'impossible, c'est bel et bien l'action des entités invisibles. Et les mots centrales, c'est l'action des entités invisibles. L'idée que les choses peuvent se faire parce que les dieux, les entités invisibles, l'ont permis, ou que les choses ne peuvent pas se faire parce que les entités invisibles ne l'ont pas voulu. L'idée que des entités invisibles agissent de manière ordinaire dans les actions humaines, c'est la grande caractéristique de cette période historique que les sociologues appellent un monde enchanté. Et lorsque vous lisez, vous relisez des poèmes homériques, même s'ils sont très tardifs dans cette histoire, il y a encore l'idée que les dieux agissent de façon ordinaire pour expliquer l'issue des combats, voire même l'issue finale de la guerre à Troie. Dans cette logique, la grande image de ce qui est l'impossible, c'est la transgression. La transgression, ça veut dire que le monde profane touche, va corrompre, contamine l'ordre du sacré. Et dans cette représentation religieuse, chaque fois que cela se produise, inévitablement une sanction sous forme de catastrophe ou de châtiment se déclenche. Plus tard dans l'histoire de ces régimes religieux, la transgression prendra la forme du péché moral. Et même s'il n'y a pas de sanction ici-bas, de toute manière, il y aura une sanction dans l'au-delà. Longtemps, la religion et les entités invisibles ont été la matrice essentielle autour desquelles les sociétés ont parvenu à juguler l'iblis, l'orgueil, les désirs d'illimitation des individus. Et cette fonction a eu, évidemment, une efficacité historique plus ou moins grande selon les sociétés, mais il avait une efficacité symbolique décisive. Pour que tout le monde puisse me comprendre, il y a dans le monde aujourd'hui, bien entendu, des pays où je reviendrai dans un moment, la sécularisation, c'est-à-dire l'Église continue à avoir davantage de pouvoir que les instances politiques. Il y a bien entendu des gens qui ont des croyances religieuses partout dans le monde. Mais ce qui, dans une société comme la française, s'est largement réduit sans disparaître, c'est ce qu'on peut appeler de manière technique l'enchantement du monde. C'est-à-dire l'idée que des entités invisibles ou des divinités ou des mauvais sorts ou des mauvais esprits agissent de manière ordinaire dans la vie sociale est quelque chose qui a cessé d'être une représentation dominante de la vie sociale en France. Je sais, les gens regardent l'horoscope, l'astrologie et j'en passe, mais ce serait très troublant si quelqu'un venait expliquer des phénomènes des sociétés par l'action des entités invisibles. Le chômage, nous croyons, à tort ou à raison, plutôt à raison je pense, que s'explique davantage par des contraintes économiques et politiques que par l'action des entités invisibles. C'est ça une société qui, à un moment donné, cesse de croire au pouvoir des entités invisibles dans les tracés de ce qui est possible et impossible. Ce processus de sortie du régime religieux de réalité a été long. et va se produire non pas parce qu'il y a des anomalies. On constate que telle divinité n'a pas eu le rôle qu'on lui prêtait. C'est un effondrement beaucoup plus global qui va se produire. Étrangement, c'est une histoire que tous les psychologues sociaux connaissent bien, tant qu'on est dans une croyance, on est relativement imperméable aux effets négatifs de nos croyances. Les anomalies ne viennent jamais mettre en question une croyance. C'est plutôt lorsque la croyance s'effondre qu'on va être très sensible au nombre des anomalies et la croyance nous empêcher de voir. Pour que tout le monde comprenne très bien cette histoire, c'est le vieux conte enfantin sur les rois nus. Le roi a toujours été nu. Mais comme tout le monde faisait semblant de croire qu'il était vêtu, on ne le voyait pas. Jusqu'au moment que quelqu'un crie que le roi est nu et tout le monde va voir l'évidence des sens qui était toujours là devant les yeux que le roi était nu. C'est de cette manière qu'à un moment donné, ce régime religieux de réalité qui a été actif et soutenu par une série d'institutions politiques et de soi pendant des longs millénaires, à un moment donné commence à avoir une efficacité moindre. Et lorsque les religieux ne tracent plus la limite de l'impossible, mais tout le monde connaît probablement la phrase de Dostoïevski, très tardif parce que c'est écrit dans un roman du 19e siècle, « Si Dieu est mort, tout est permis ». C'est-à-dire qu'il n'y a plus de capacité de réguler moralement les conduites humaines et donc l'illimitation de l'action humaine devient quelque chose qui va ronger de l'intérieur les sociétés. Du point de vue historique, me semble-t-il que dans un moment historique très long, parce qu'elles se sont chevauchées pendant une période longue de leur histoire commune, le régime religieux de réalité va céder cette fonction sociale au régime politique de réalité. C'est-à-dire que ça va revenir aux politiques et non plus aux religieux la fonction de tracer la limite entre le possible et l'impossible. Et le politique va le faire en s'appuyant sur une peur qui est d'une autre nature. Ce n'est plus la peur des phénomènes naturels que l'on ne maîtrise pas et dont on essaye de donner une interprétation. Mais ça va plutôt se construire autour d'une peur différente associée à la violence. L'idée que toute collectivité humaine, que tout être ensemble, toute société, peut déchaîner la violence entre les uns et les autres. Et que pour réguler cette violence, on a besoin d'un centre de pouvoir qu'on appelle un État ou un centre politique. La politique est là pour empêcher les sociétés humaines de se déchirer par la violence. Et pour asseoir cette fonction de la violence par les politiques, on fait appel à une représentation qui, là encore, a été très longue, millénaire, qui c'est l'idée de l'existence d'un ordre naturel hiérarchique. L'idée qui va prendre des expressions différentes dans une période très longue et avec des formes étatiques très diverses, mais bel et bien l'idée que l'ordre politique ici en bas, sur la Terre, doit reproduire, être en décalque, d'un ordre naturel dicté à l'origine par une représentation largement appuyée sur la religion. L'ordre hiérarchique trace par la nécessité de la pyramide sociale naturalisée la limite du possible et de l'impossible. Ceux qui sont en bas de la pyramide, ceux qui sont nés esclaves par nature, pour reprendre ce langage classique pendant longtemps de l'histoire de l'humanité, doivent s'accorder au rang, à la place, à la situation qui la leur et respecter la pyramide hiérarchique. Toute transgression de l'ordre naturel amène évidemment à rompre ce qui est l'équilibre inévitable du cosmos. Et dans toutes ces longues périodes où les régimes politiques de réalité chevauchent en partie en s'autonomisant chaque fois davantage du régime religieux de réalité, c'est très important de bien comprendre que la grande fonction que l'on demande à la politique, c'est de tracer l'impossible. Et l'impossible du politique va s'asseoir sur l'idée qu'existe des hiérarchies qu'il faut absolument respecter. Et rien n'est produit autant de cataclysmes et de peurs collectives que les moments de régicide. Il y a des pièces de théâtre, mais aussi encore dans des traditions populaires au Moyen-Âge, qui montraient bien que lorsque le roi était atteint dans sa personne, c'était l'ordre du cosmos en tant que tel qui devenait à être dérégulé. La politique, grâce au recours de la violence et plus tard par les châtiments, était ce qui garantissait à la fois la non-violence à l'intérieur d'une société, mais aussi l'indispensable nécessité de tracer d'une limite et donc le recours légitime au châtiment pour asseoir l'ordre social sous l'ordre des choses du monde. Cette tradition est très longue, change selon les périodes, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est très différent pour rester dans l'histoire européenne au début du Moyen-Âge qu'au moment de la formation de l'État-nation en France, au 15e, 16e. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'idée d'un impossible, même s'il est assis sur un univers largement enchanté et religieux, va devenir une fonction largement politique. Et ce qui est plus intéressant pour comprendre ce qui va arriver, c'est raconter rapidement comment nous sommes sortis de cet univers dans lequel les politiques traçaient la limite du monde et du possible. Je me sens sur trois éléments importants. Premier élément, ce sont les anomalies. Plus on avance bizarrement dans les processus de construction de l'État-nation, plus pour que tout le monde comprenne, l'État prélève des impôts, plus l'État embauche des fonctionnaires, même si le prélèvement économique est très bas dans cette période de l'histoire, plus les gens se détournent vers l'État pour qu'ils puissent assurer effectivement l'ordre du monde. Et bizarrement, c'est au moment où les pouvoirs factuels de l'État augmentent et la demande des individus de l'État pour réguler les choses devient plus grande, et on s'aperçoit que l'État est incapable de tracer véritablement la limite de l'impossible. Les anomalies deviennent bizarrement à la fois plus visibles et plus gênantes, puisque la demande d'une politique qui puisse véritablement asseoir la frontière de l'impossible n'a cessé d'augmenter. Premier paradoxe, en devenant plus actif, les politiques ont montré davantage ses limites. Deuxième paradoxe, longtemps, l'évidence, la hiérarchie était une évidence, presque anthropologique. Il y avait, tout le monde sait ça, dans le récit collectif, les nobles et les non-nobles, les autres, les tiers-états. Et cette formulation qui a eu des représentations très différentes dans les histoires européennes, différentes périodes, était quelque chose qui traçait une différence anthropologique entre les uns et les autres. La hiérarchie était l'évidence naturelle des différences entre les individus. Eh bien, à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, mais surtout au XIXe, va se construire une toute autre représentation naturelle des individus, où la hiérarchie est remplacée par l'égalité. C'est quelque chose d'un bouleversement profond. On cesse de croire que ce qui est premier, c'est la hiérarchie, et on commence à croire que ce qui est premier, c'est l'égalité. Au XVIIIe siècle, la tension est encore très forte. On a la représentation d'une nature inégalitaire, c'est Rousseau qui parle, et de la nécessité d'introduire l'égalité par les politiques. Mais au XIXe siècle, et par la suite, c'est bel et bien l'idée d'une égalité première entre tous les individus qui devient l'élément de base de l'anthropologie collective. Deuxième paradoxe, la hiérarchie qui pendant des millénaires a été le grand pivot de l'impossible d'une société cède les pas au principe d'égalité. Et le troisième sortie du politique, c'est pour moi le plus important, parce que ça va solder un moment irréversible, c'est évidemment l'événement révolutionnaire. À partir du XVIIe, XVIIIe et par la suite, grâce à ces phénomènes collectifs qui sont la révolution, ces déferlantes d'énergie collective dans l'histoire, la politique va changer radicalement de fonction. Elle n'est plus censée dicter l'impossible par le nécessaire respect d'une hiérarchie naturelle. La politique, au contraire, devient le lieu de tous les possibles. L'expression illimitée de la volonté collective. Ce qui va abolir les anciens privilèges, faire table rase du passé et ouvrir tous les horizons du possible. Il y a une grande philosophe politique du XXe siècle, Hannah Arendt, qui a compris probablement cela mieux que personne, lorsqu'il a dit que les camps d'extermination, sous le régime totalitaire au XXe siècle, ont été les laboratoires avec une intention extrême, qui naît avec la passion révolutionnaire, le monde où tout est possible, où l'illimitation cesse d'être un horizon acceptable pour une société, et c'est au contraire l'ouverture radicale de tous les possibles qui devient les ciments de la volonté collective. Lorsque la révolution s'empare de l'imaginaire politique, j'espère qu'on me suivait le raisonnement, la politique a changé radicalement de fonction. Elle était là pour asseoir les hiérarchies et donc tracer l'impossible social sous le nécessaire respect des hiérarchies naturelles, et on bascule dans un monde, le nôtre au fond, dans lequel au contraire la politique doit devenir l'expression permanente de la volonté vis-à-vis des contraintes de la réalité. Lorsque ces mouvements va se produire, et cette sortie radicale de la politique par la révolution a lieu, coïncide à peu près, l'histoire a des sauts et des contradictions, à un moment dans lequel s'empare, se construit collectivement, un langage qui va décrire les phénomènes de la réalité avec une prétention épistémologique toute nouvelle. C'est évidemment la science moderne. 17e siècle, le processus est long, je ne veux pas entrer dans les détails historiques, ce sont mieux décrits, je l'espère, dans l'ouvrage. Mais la science moderne est une véritable rupture, peut-être la seule vraie grande rupture, davantage que la révolution politique, dans l'histoire de l'Occident. La science moderne va proposer un regard sur la réalité qui s'appuie sur une forme privilégiée d'accès au réel et une bonne partie de la supériorité intellectuelle que les Occidentaux ont eue et continuent à avoir vis-à-vis d'autres représentations sociales s'appuie sur la science, à la fois dans sa capacité à décrire, comprendre, étudier le réel, mais aussi dans sa plus grande capacité d'intervention technique. De ce point de vue, l'histoire du XXe siècle peut être racontée à partir de l'inflation du XVIIe siècle, qui va expliquer pourquoi les pays occidentaux vont, grâce à la science, comme langage plus efficace et plus vrai pour dire le réel, produire une technique qui va instrumentaliser le monde, donnant des capacités d'action plus grandes. Et c'est vrai que si on prend l'histoire occidentale, entre 1750 et 2050, 3 siècles, l'Occident a connu une véritable supériorité politique et militaire grâce à sa supériorité technologique. Et un sociologue chinois, à ma place, pourrait raconter cette histoire en disant qu'avant le XVIIe siècle, et l'histoire est vraie d'ailleurs, racontée de cette manière, la Chine était le centre du monde, que la Chine a raté la révolution industrielle au XVIIIe siècle, que cette turbulence historique a duré 3 siècles, et qu'aujourd'hui, 2050, la Chine est de nouveau le centre du monde. C'est cette histoire qui raconte la science moderne et qui va faire de la science ce langage hégémonique en Occident pour décrire qu'est-ce que c'est le réel. La question s'impose elle-même, est-ce que la science va alors dire le réel et donc le possible et l'impossible? Historiquement, elle aurait été beaucoup plus logique à la science de jouer cette fonction, sauf qu'elle ne l'a pas fait. Et en partie, ne l'a pas fait, l'histoire n'est pas logique, mais une réalité collective, parce que très vite, la science moderne et sa capacité à décrire la réalité sous forme de caractères mathématiques va alimenter un projet prométhéen ou faustien, peu importe, autour de la technique. Et la technique moderne, fin du 18e, ça s'accélère au 19e, s'explose au 20e siècle, est là non pas pour nous dire l'impossible, mais au contraire, pour ouvrir radicalement tous les possibles. Et la technique moderne, c'est-à-dire l'image du monde qui prépare la science, instrumentalisée par la technique occidentale comme un projet de maîtrise de l'univers, se base dans cette volonté de faire systématiquement reculer tous les obscurantismes, abolir les contraintes factuelles pour ouvrir sans arrêt l'horizon des possibles. La technique, dans l'imaginaire de la modernité, a plein de fonctions, mais jamais celle de tracer l'impossible. Au contraire, l'horizon de la science, c'est l'expression extrême via la technique d'un hybris, d'un désir extrême d'illimitation occidentale. Et s'il y a une métaphore qui résume dans toute sa tragédie la science moderne occidentale, c'est bien le récit classique de Frankenstein, c'est-à-dire la science produit des monstres qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Mais à l'origine de cette monstruosité, une ouverture illimitée et permanente des possibles. Puisque la science va désacraliser, du point de vue de l'épistémologie, du regard scientifique, du regard du monde, l'ordre basé sur la religion et la politique, et qu'elle n'exerce pas la fonction des limites, qui va exercer cette fonction? Je reviendrai à la fin de cet exposé, le pourquoi des raisons de ce besoin. Je crois qu'historiquement, là encore, on peut avoir un certain accord, j'espère, entre nous, ce sera l'économie qui va remplir cette fonction. Et l'économie va le faire dès le XVIIIe siècle, et jusqu'à aujourd'hui, je crois, de manière certainement hégémonique, en complément d'autres visions, parce que l'économie va construire une représentation de la vie sociale en s'annexant les modes de raisonnement de la science moderne. On l'a dit plusieurs fois, mais c'est profondément vrai, la science économique est profondément newtonienne. Les lois économiques ont été construites dès le début par la science économique, enfin rapidement par les sciences économiques, naissantes, 18e siècle, en analogie avec les lois de la gravitation. Il y a des choses qui sont possibles, des choses qui ne sont pas qui sont impossibles, parce que l'ordre même du monde les rend réalisables ou non. Et pour bâtir cette représentation de l'impossible, la science moderne va, comme avant elle avait fait la politique par la violence, construire une grande représentation d'un danger, d'une peur, qu'il faut absolument limiter et contrôler. Et cette peur va se fabriquer autour de la rareté, l'idée qu'il n'y a pas assez de nourriture pour nous tous. Excusez-moi de le dire, cette expression nourriture de manière aussi brutale, mais c'est bel et bien la construction qui va proposer Malthus. Tout le monde a une image vague de cette représentation dans cette salle, lorsqu'il dit cette chose qui hante encore l'imaginaire 3 siècles plus tard, l'idée que la population va suivre une progression géométrique, c'est-à-dire une explosion démographique, et que l'alimentation n'a qu'une progression arithmétique, c'est-à-dire une moindre production. Et qu'on va être trop nombreux pour les peu de nourriture existantes, et qu'inévitablement, la rareté va déclencher une limite indépensable, factuelle, du monde. Et pour expliquer les effets de la rareté sur la vie humaine, les économistes vont construire un ensemble de représentations autour d'une vision particulière qui prend la forme, là encore en analogie étroite avec la science physique, sous la forme de mécanique. Les faits économiques sont basés sur une mécanique. Et chaque fois, comme en mécanique, il y a des phénomènes, parfois des dysfonctionnements, mais l'important, c'est de bien comprendre que l'agencement inévitable des faits économiques dicte ce qui est possible et ce qui est impossible. Et que l'on soit dans l'agrégation du marché, que l'on soit dans la contradiction indépassable du marxisme, que l'on soit dans l'équilibre parfait des néoclassiques, ou que l'on soit dans les circuits keynésiens qu'il faut huiler de temps à autre, c'est bel et bien l'idée d'une contrainte systémique, en fait, d'un imaginaire, d'une mécanique qui s'impose comme un factum, comme un fait indépassable à la volonté humaine. L'économie dicte la frontière ultime du possible et de l'impossible. Et pour cela, les économistes ont été amenés, dans cette fonction sociale de tracer du réel, invités à proposer des retours des réalités qui explique pourquoi, lorsqu'on y va trop loin dans le désir de volontarisme, il y a un retour inévitable des réalités. Je n'entre pas dans les détails, peut-être on reviendra dans la conversation, mais pensez au récit que l'on a donné de l'échec des régimes communistes en Europe de l'Est ou en Union soviétique. C'est bel et bien l'idée qu'à un moment donné, l'hybris politique a pensé pouvoir aller au-delà des lois économiques et que c'est les lois économiques qui ont fini par imposer dictée par l'ordre des choses, l'orientation politique. Le récit économique de l'implacable loi de l'économie construit une mécanique qui trace par l'ordre même des choses la limite du possible et de l'impossible. Ce récit économique, qui aujourd'hui est encore, je crois, hégémonique à l'heure de dicter au niveau de la société les limites de l'impossible, commence à connaître une série de défaillances. Et c'est une partie importante de l'ouvrage. Je crois, c'est une hypothèse historique, pas historiciste, une prophétie, mais une hypothèse historique, que nous commençons à assister au début de la crise définitive, probablement, de l'économie en tant que grand imaginaire de la limite de notre société. Et que nos sociétés commencent à avoir de plus en plus de doutes sur le caractère implacable des lois économiques pour tracer l'impossible. Que ce soit en termes des effets de la monnaie, les effets de la rareté, une société qui est de plus en plus riche, même si ça peut en descendre dire ça, lorsqu'on sait qu'un milliard de personnes vivent avec moins d'un dollar par jour dans la planète, nos sociétés regorgent de moyens qui s'expriment de différentes manières. Et donc le rapport à la rareté que nous avons, elle est davantage entretenue par une forme de rapport social que véritablement par une rareté imposée intrinsèquement par la nature. Ce récit a de plus en plus de difficultés à s'imposer et du coup c'est aux politiques d'imposer les limites, notamment par des règles d'or plus ou moins inscrites dans des conventions constitutionnelles. Et c'est aussi cette idée que, même si le récit de l'endettement ou du crack et l'image de l'issue finale s'impose à nous tous, en réalité, lorsqu'on regarde de près ces phénomènes, on s'aperçoit la formidable élasticité des phénomènes économiques. Je donne un exemple plus précis parce que on est en pleine croissance économique et nous vivons les conséquences d'un krach boursier important 2007-2008 et donc ça peut sembler étrange ce que je suis en train de vous dire. Les krachs boursiers, c'est quelque chose qui hante l'imaginaire de la société moderne et qui a un effet formidable dans la narration économique. Nous avons tous vécu des krachs et nous savons que les krachs existent, bien entendu. Et d'ailleurs, dans cette littérature sur les krachs boursiers qui commence l'histoire des tulipes en Hollande au XVIIe siècle, les récits économiques sont formidablement toujours les mêmes. Ils ne les écrivent pas très bien les économistes, un peu mieux que nous les sociologues d'ailleurs, mais c'est toujours la même narration qu'ils racontent. Et toutes les crises du krach ont quatre grandes séquences narratives. Première séquence narrative, il y a trop d'argent, trop de liquidités, comme disent les économistes, qui s'explique par une trop grande concentration de la richesse ou bien parce qu'il y a des métaux précieux qui sont découverts et qui font véritablement arriver un grand flux d'argent. Avec ces énormes quantités de liquidités, deuxième grand moment de la narration, toujours la même, il y a une certaine dérégulation économique, c'est-à-dire que le pouvoir politique n'exerce pas suffisamment sa fonction de contrôle. Et du coup, deuxième récit, trop d'argent, pas assez de contrôle politique. Troisième moment, toujours le même dans le récit économique du krach, il y a la passion humaine, l'euphorie. Les gens pensent que ça va continuer à monter indéfiniment vers le haut. Et donc, une illimitation extrême. Et quatrième moment, le récit est toujours le même, il arrive le retour de réalité et la correction par les krachs boursiers. Ce récit est fascinant, pour plusieurs raisons. Il est fascinant parce qu'il met à mal tout ce que l'économie dit d'habitude. D'abord, à la racine, à la base d'un krach boursier, il n'y a pas la rareté, mais trop d'argent. Deuxième moment, il n'y a pas laisser-faire du marché, mais il y a au contraire, la crise va se produire par un non-contrôle politique. Troisièmement, l'action économique n'est pas rationnelle, mais au contraire, sur la passion illimitée du profit humain. Et quatrième point, les marchés ne sont pas efficients, preuve par les krachs qui viennent de se produire. Tout ça met à mal le récit ordinaire de l'économie, mais évidemment, ça ne met pas à mal la croyance en l'économie comme grand principe de la limite de nos sociétés. Et lorsqu'on observe de près les krachs, c'est là que la correction doit venir, qu'est-ce que c'est qu'un krach boursier? Peu de gens jouent à la bourse. 1,2% des Américaines en 1929. Même en France, ce sont des gens qui ont beaucoup de revenus et un nombre très faible pourcentage de la population en France joue à la bourse. Et en termes techniques, lorsqu'on a un krach, on s'aperçoit, et c'est la grande différence entre la crise de 87-2000 ou 2007-2008 par rapport à celle de 1929, que la valeur des actifs se récupère très vite. La crise de 2007-2008, la valeur des actifs a été récupérée 6 ans après, janvier 2013. Le krach de l'année 2000 a mis encore 2 ans simplement pour se faire, et c'était encore plus rapide dans le krach de 1987. Bref, les krachs, c'est une perte des valeurs des actifs financiers qui se récupère très vite. Deuxième image, encore plus étonnante, les krachs se produisent, mais parfois les krachs se produisent sans que l'onde des chocs se produise. C'est une espèce de dégonflement. D'ailleurs, la métaphore des économistes ont beaucoup des images de cette sorte, progressif. Et il y a eu un dégonflage terrible de la spéculation immobilière en Espagne. Nous assistons à une sorte de dégonflement d'une bulle immobilière en Chine sur des manières beaucoup moins fortes. Bref, les krachs hantent comme imaginaire. C'est une image comme l'endettement d'une limite indépassable. On, en réalité, lorsqu'on regarde de près les faits, et les opinions publiques, je pense qu'ils commenceront à les faire comme une des conséquences possibles de la crise de 2007-2008, on s'aperçoit qu'il s'agit des contraintes économiques plus ou moins élastiques et qui opèrent de différentes manières. Je crois, j'avance pour conclure, que l'économie est toujours hégémonique au moment de tracer les limites de l'impossible. Et on voit l'importance que nous accordons de manière exagérée à l'économie dans nos choix collectifs, y compris dans la construction de l'Union européenne. Et je suis convaincu, si l'hypothèse de cet ouvrage est juste, que lorsque dans quelques décennies ou un siècle et demi, on regardera en arrière, on se posera cette question de comment les sociétés ont pu accorder à quelque chose d'aussi élastique, d'aussi conventionnel que l'économie, ses rôles déterminants alors de tracer le possible et l'impossible. Enfin, dernière partie de cet ouvrage, puisqu'il fait l'hypothèse d'une sortie, d'un début de sortie de l'économie comme régime de réalité, qui prendra des décennies ou plus d'un siècle, il me semble que nous observons une espèce de combat pour tracer cette limite sur un autre principe. Et qu'aujourd'hui, on nous sort d'une fonction hégémonique économique qui est en mise en concurrence par un régime écologique de réalité. Mais depuis les années 60, on assiste, d'abord avec une sensibilité très environnementaliste, à la construction d'une nouvelle grande peur écologique. Les printemps silencieux, les pesticides qui tuent les oiseaux, la bombe démographique, qui s'est à bien des égards produit moins intensivement que ce qui était prévu, mais grâce aux gains de productivité dans le secteur agricole, il n'y a pas eu les pénuries de nourriture qui étaient annoncées, ou encore la mise à mal d'un projet de production comme Alto Croissance, un best-seller des années 72, l'a pu les présenter. Mais surtout, ce qui s'est produit depuis, c'est que nos sociétés sont entrées dans un travail actif, des façonnages d'un imaginaire soumis au caractère impérieux de la catastrophe écologique. Ça prend l'augmentation du taux d'acidité dans les mers, la fonte polaire, évidemment le réchauffement climatique, les pics pétroliers, et j'en passe. Et donc l'idée que désormais, ce qui trace véritablement la limite de nos sociétés se trouve dans des phénomènes naturels. Et de la même manière qu'on a demandé de jouer ce rôle de régulation de l'illimitation humaine au Dieu, au roi, à l'argent, nous commençons à les demander à la nature. Qu'est-ce que c'est que ce régime écologique de réalité en train de se construire? Une inflexion profonde dans le regard non pas de la science moderne, tout ça est profondément animé par cette hégémonie du regard scientifique, mais une représentation qui s'appuie sur une rupture avec ce qui a été une lecture politique, entre guillemets, de la modernité. La modernité a été l'idée que les hommes, les sociétés, pouvaient se libérer des contraintes de la nature. C'est la grande promesse de la technique, c'est le grand projet de volontarisme politique. À sa façon, c'est le gain de productivité constant de l'économie. Ce que nous assistons aujourd'hui, c'est au rencastrement de la société dans la nature. C'est un bouleversement important dans le projet de la modernité. C'est-à-dire que longtemps on a pensé que les limites de la société étaient de nature, entre guillemets, d'ordre strictement sociaux. Et aujourd'hui, nous basculons un monde dans lequel nous pensons que, de nouveau, les véritables limites de la société sont d'ordre naturel. Dans cette représentation qui est en train de se forger aujourd'hui, les interdépendances écologiques deviennent la grande matrice de représentation de ces nouveaux régimes de réalité écologique, dans lesquels le réencastrement de la société dans la nature fait qu'il soit la nature, sous différentes modalités, et notamment sur une logique de seuil qui va tracer l'ordre du possible et de l'impossible. Avec l'idée qui s'exprime de différentes manières, qui est dépassée un certain seuil, il y a des effets en cascade qui se produisent et nous ne pouvons plus maîtriser. Il n'y a pas la moindre ambiguïté de ce que je viens de dire. Les contraintes politiques existent, les contraintes économiques existent et les contraintes écologiques existent. Et je ne suis absolument pas quelqu'un qui met en question ni la thèse du réchauffement climatique, en tout cas je n'ai aucune compétence scientifique pour le faire, ni la thèse de l'origine anthropique humaine du réchauffement climatique. La seule question qu'un sociologue peut faire lorsque analyse ces débats, c'est de poser la question là où la question se pose pour un sociologue. C'est-à-dire quelles sont les conséquences que les contraintes écologiques posent pour la société. Et en fonction du degré d'augmentation de la température, on sait très bien que les effets naturels seront divers. Mais cela ne trace pas une limite. C'est la confronte une société à une série de contraintes, des difficultés, qui ouvre un espace stratégique. Et même si on peut tous penser dans cette salle que c'est très irresponsable, il y a des acteurs économiques et politiques qui pensent que les désastres ou les catastrophes écologiques qui s'annoncent ouvrent un espace de jeu dans lequel on fera des investissements dans de nouvelles régions, ouvrira de nouveaux marchés et pourra ouvrir des transformations profondes par la technique. Oui, les contraintes écologiques existent, non, l'écologique pas plus que l'économie ou hier la politique ne trace pas une limite indépassable aux sociétés. Il faut préserver la fonction inévitable des contraintes en essayant de se libérer de la chape des plombs de l'imaginaire de la limite. Et ceux qui aujourd'hui, du point de vue de la critique écologique, font exactement la même chose qu'a fait le marxisme hier, veulent construire une limite indépassable pour contrer ces désirs de limitation humaine, hier par les lois inexorables de l'économie, aujourd'hui par l'heuristique de la peur basée sur le principe de la future catastrophe écologique. La peur n'ouvre jamais les chemins de la liberté. Et toute invocation à la peur pour réguler les désirs de limitation humaine, il me semble, ne peut que finir dans les pires des dictatures pour les collectivités humaines. La partie de la sortie de l'économie et la proposition d'un possible régime écologique de réalité doivent se lire de manière hypothétique. Nous sommes, à l'heure où l'analyse de ces livres se produit, plutôt ancrés dans un régime dans lequel, encore et toujours, l'économie dicte l'essentiel des limites de nos sociétés. Et un acronyme marque ça de manière très forte dans les esprits, TINA en anglais, il n'y a pas d'alternative. Et même si c'est bien de penser que d'autres politiques économiques sont possibles, TINA, encore aujourd'hui, ferme beaucoup de débats et empêche de poser un certain nombre de questions parce qu'elles sont enracinées dans une croyance collective partagée. Trois réflexions finales pour faire très vite. Ce livre raconte une histoire, comme tous les travaux des sciences sociales le font. Pour nécessité d'organiser le récit, et même l'exposé d'aujourd'hui c'est la meilleure preuve, j'étais obligé de donner une succession de modèles. Qu'on peut lire de manière très classique en disant à une grande matrice religieuse, c'est venu s'adosser à un modèle politique, s'est produit la grande rupture des sciences modernes, et nous sommes entrés dans un monde dans lequel nous demandons un discours hégémonique sur le réel, scientifique, autour d'un domaine, l'économie, peut-être demande l'écologie, de fixer les limites. Il va de soi qu'il y a un chevauchement des modèles, qu'il peut y avoir des moments de tension entre l'un et l'autre. Et même, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, que tout le monde comprenne bien ces chevauchements, un des grands débats parmi les plus intéressants de la pensée critique s'est produit entre les économistes et les écologistes. Les écologistes disant l'inanité des calculs que l'économie propose sur l'épuisement des ressources naturelles, les économistes répondant à cette attaque par les externalités, l'extension du système des prix pour prendre acte des choses que les prix ne prennent pas d'habitude en compte, ou par le développement durable, et les écologistes contre-attaquant à la réponse des économistes en disant l'inévitable entropie que le progrès et la productivité amènent au niveau de l'environnement. Voilà comment il y a à la fois des combats entre représentants, mais aussi l'idée que dans cette succession historique, rien, vraiment rien, n'empêche un retour entre guillemets en arrière. Donc, il n'y a pas d'image de progrès dans cette phrase, il n'y a pas de progrès dans cette histoire. Les sociétés se construisent autour d'imaginaires, autour duquel ils essayent de construire l'impossible. Cet impossible a été construit autour des entités invisibles, tant à l'être aujourd'hui par la mécanique économique et demain peut-être par l'interdépendance écologique. Mais rien, vraiment rien, ne permet de penser que demain, nous reviendrons à un système dans lesquels, de nouveau, ce seront les entités invisibles qui traceront l'impossible dans les sociétés. Il suffit de penser des dérèglements politiques, un retour de la violence ou des catastrophes écologiques très importantes pour que ces représentations et l'appel aux entités invisibles comme manière de réguler par la morale les désirs d'illimitation humaine puissent se remettre en place. Deuxième remarque finale, ce qui est fascinant dans cette lecture critique, me semble-t-il, lorsqu'on la regarde de l'extérieur, c'est la difficulté qu'ont eu toutes les sociétés à se débarrasser radicalement de l'idée d'une réalité qui doit être la dernière frontière pour maîtriser les désirs d'illimitation humaine. Dans les sciences humaines et sociales, il y a une phrase célèbre qui associe un triade qu'on appelle les grands maîtres du soupçon. Marx, Nietzsche et Freud, comme les trois grands maîtres qu'au XIXe siècle ont aboli les fausses évidences sur la réalité. Et ce qui est le plus fascinant, littéralement, dans le regard de leurs œuvres, c'est qu'ils sont d'un côté déboulonnés l'image des faux totems, et en même temps se sont précipités, chacun à sa manière, de construire un nouveau totem de la réalité. Ça s'appelle l'infrastructure économique pour Marx, la volonté des puissances pour Nietzsche et le principe de réalité pour Freud. Comme si, lorsque on abordait une société qui se libère définitivement de la frontière de nature d'une limite impossible, autour du réel, on était obligé de faire marche arrière. Et c'est la dernière remarque finale. Je crois que la pensée critique a trop été obnubilée par la nécessité d'ouvrir les possibles dans l'histoire. Travail sans doute essentiel vis-à-vis de tous les conservatismes et les privilèges au long de l'histoire humaine. Mais derrière cette question, à sa base peut-être, il y a une question autre, et peut-être plus lancinante et plus inquiétante, qui est une sorte de réflexion énigmatique qui traverse ces livres dans le récit historique qu'il propose. Toutes les sociétés ont, au fond d'elles-mêmes, la crainte de ce que la société peut faire en tant que collectivité humaine. Et c'est pour juguler cette crainte d'une société bâtie sur des imaginaires divers, dans lesquels tout devient possible, que les sociétés s'organisent pour instituer, de manière diverse, au long de l'histoire, différents principes des limites de la réalité. Et pour le dire une phrase qui est le résultat, pour moi en tout cas, de ces années de travail autour de ces livres, la véritable inquiétude de la vie sociale, la tragédie de la société, se réside dans l'impossibilité de tracer et d'instituer l'impossible. Merci beaucoup.